7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h44, dans 10 minutes, Xavier Aimant nous parlera de la valeur travail. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors je vous préviens au cas où, chers auditeurs, ce matin ce ne sera pas drôle, pas de chronique blague aujourd'hui, nous allons traiter des sujets beaucoup plus sérieux que d'habitude. Alexandre, vous avez l'air déprimé, qu'est-ce qui ne va pas?
Ben c'est que j'ai oublié ma cravate dans le train.
Vous avez oublié une cravate? Vous n'en avez pas plusieurs?
Alors si, mais c'était la cravate que m'avait offert le groupe ECR au Parlement européen. Si j'étais pas là donc ces deux derniers jours, c'est parce que je partais donc à Bruxelles. Et figurez-vous que j'ai découvert quelques petites choses assez intéressantes. Je me suis un petit peu penché sur le fonctionnement des invitations au Parlement européen. Parce que oui, c'est possible de se faire inviter au Parlement européen pour diverses raisons. D'habitude, j'y vais plutôt en tant que journaliste. Mais enfin, là, j'y allais. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Un petit peu après d'ailleurs. Et alors ce que j'ai découvert par exemple, c'est l'existence du règlement 400 de l'Union Européenne. Ça c'est quelque chose d'assez formidable. Donc c'est un petit peu toutes les petites lignes budgétaires qui vous payent, qui expliquent un petit peu comment les députés et les groupes ont le droit de dépenser de l'argent. Un petit point qui est assez amusant pour commencer, c'est que le train c'est automatiquement en première classe. En première classe, donc dans l'Eurostar, donc ça veut dire que le trajet Paris-Bruxelles, vous le faites dans des sièges extrêmement confortables par ailleurs. D'un autre côté, vous avez le repas qui est servi, peu importe l'heure, dans le wagon. Donc c'est toujours agréable, écoutez, de se faire inviter par le Parlement européen. Mais je vous parlais de cadeaux. Alors en fait, en réalité, si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est que en regardant dans ce règlement 400, on voit des choses assez amusantes sur la manière dont on peut dépenser l'argent. Par exemple, déjà petite chose, c'est que 50% du budget d'une année peut être reporté sur une autre année. C'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, mais mettons au hasard 2026, vous n'avez pas grand chose à faire à l'Union Européenne. En revanche, 2027, il y a une élection présidentielle. En fait, ce serait pas mal de pouvoir utiliser le budget de publicité du groupe de l'Union Européenne pour pouvoir justement faire sa publicité sur l'année prochaine. On peut reporter. Ensuite, tout ce qui coûte moins de 15 000 euros, une facture et ça suffit. Pas besoin de devis, pas besoin de rien faire, etc. 15 000 euros, il suffit d'avoir sa petite note de frais et tout passe. Et alors, autre point qui est assez amusant, c'est que bon, comme vous le savez, chers auditeurs, un eurodéputé, c'est 5 000 euros d'indemnité par mois. Mais l'indemnité, donc, ça peut finir en salaire bonus, si jamais on la dépense pas, parce que pourquoi pas. En plus de 8 500 euros de salaire net, en plus de 350 euros par jour de présence dans une session, et puis des remboursements de frais de transport. Voilà, donc ça c'est juste pour l'eurodéputé. Mais en plus, il y a le budget des groupes. Les groupes, les coalitions, si vous voulez, au Parlement européen. On parle souvent du PPE, du groupe Renew, on parle des Patriotes pour l'Europe, du groupe ECR. Eh bien, en fait, le total du budget de ces groupes, c'est 65 millions d'euros par an. Donc 90 000 euros par député par an. Et alors cet argent, eh bien, il peut servir à acheter du matériel informatique, il peut servir à acheter de la publicité, il peut servir à organiser des conférences, mais il peut aussi servir à faire des petits cadeaux, eh bien, comme la cravate que j'aurais dû recevoir mais que j'ai oublié dans le train comme un zouave. Ça sert également, alors ça c'est quelque chose de particulièrement divertissant disons, c'est que si vous voulez, sur ces 90 000 euros par député par an, 5% de ces crédits peuvent partir en subvention à des organisations extérieures. Alors une organisation extérieure, c'est quoi? C'est tout ce qu'on veut, sauf un parti politique. Donc si vous voulez, une association peut être financée par l'Union européenne directement à la discrétion des groupes, des députés. Donc ça veut dire que théoriquement, Radio Courtoisie pourrait être très riche si jamais les eurodéputés patriotes décidaient de faire des dons, comme vous devriez le faire vous-même, chers auditeurs. Mais en réalité...
J'aime beaucoup cette idée.
C'est tout à fait possible concrètement. Et alors, ce qui est vraiment assez amusant, c'est que 5% de ces 65 millions d'euros par an peuvent partir à n'importe quelle association. C'est-à-dire que les eurodéputés peuvent très bien rincer leurs amis, justement, grâce à ces subventions. Je précise évidemment qu'ils peuvent avancer la moitié des dites subventions sans que l'activité en cours ait eu lieu. C'est-à-dire que, par exemple, sur ces 90 000 euros par an, si vous avez 5%, ça représente quoi? Ça représente 4 000 4 500 euros, eh bien, en fait, ces 4 500 euros, bah, vous pouvez en donner 2 000 à votre ami en attendant qu'il monte son association, en attendant qu'il s'organise réellement. Donc voilà, ça, c'est possible. Mais c'est pas tout.
Donc, alors, voilà. C'est génial. Donc, merci beaucoup d'avoir assaisonné violemment l'Union européenne. On est plutôt comment. Mais cela dit, pourquoi diable étiez-vous là-bas plutôt qu'ici?
Bah, écoutez, ce qui s'est passé, c'est
votre départ avait donné beaucoup d'espoir aux auditeurs. Hein.
Merci, c'est super gentil, vraiment, ce que vous dites. Voilà. Plus sérieusement, c'est effectivement, ces temps-ci, je sais pas si vous vous en rappelez, chers auditeurs, on a beaucoup parlé, mais à partir du 12 juin prochain, eh bien, s'appliquera le pacte des migrations et de l'asile. Et c'est un sujet qui revient énormément ces temps-ci à l'Union européenne, le pacte des migrations. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, on en a un petit peu parlé à cette antenne, mais il existe la question du règlement retour. Le règlement retour, c'est un texte qui a été porté notamment par François-Xavier Bellamy, mais qui a été soutenu par tous les patriotes européens. Une fois n'est pas coutume, quelque chose vient des LR et n'est pas trop mauvais. Mais grosso modo, ça change ce pacte des migrations qui devait notamment répartir les migrants dans toute l'Europe. Maintenant, il y a aussi des aspects positifs. Par exemple, l'obligation stricte pour les personnes en séjour irrégulier de coopérer avec les autorités, sinon des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Pareil, maintenant, c'est possible d'utiliser des plateformes de retour pour migrants. C'est-à-dire que typiquement, on peut utiliser l'Albanie ou le Rwanda pour externaliser la gestion de l'immigration. C'est quelque chose qui était impossible auparavant. De même, sur la durée de détention maximale. Autrefois, on pouvait arriver jusqu'à 6 mois ou maximum 18 mois dans certaines circonstances pour la détention d'un migrant. Maintenant, on peut arriver jusqu'à 2 ans et éventuellement plus si risque sécuritaire. De même pour les interdictions d'entrée. Actuellement, on est à 5 ans, et on va passer à 10 ans de possibilité d'interdiction d'entrée. Encore une fois, avis aussi pour ces risques sécuritaires. Et puis enfin, la liste des pays qui sont considérés comme sûrs a été élargie, ce qui fait qu'on ne peut plus demander le droit d'asile depuis n'importe où. Par exemple, des pays comme la Colombie ou comme le Bangladesh ou comme l'Égypte sont considérés comme sûrs, c'est-à-dire que c'est plus possible, sauf circonstances vraiment exceptionnelles, de demander l'asile depuis ces pays-là.
Donc, refuser que la personne y reparte.
Exactement.
Certains juges expliquaient qu'on n'était pas absolument certain que le pays était
oui, c'est parfaitement ça.
Tranquille pour les droits de l'homme.
Et justement, on arrive dans une situation désormais où l'Union européenne, et ce qui est assez surprenant, devient plus permissive sur les expulsions et sur le rejet de l'immigration que la France. C'est-à-dire que là aussi, grâce à Macron, on commence à prendre du retard. Donc voilà, c'est principalement dans ce contexte que je me suis rendu à Bruxelles et je m'y suis rendu pour réaliser un discours. Je suis pour un petit discours, donc invité par deux Espagnols du groupe ECR. Donc le groupe ECR, c'est celui de Giorgia Meloni, c'est celui de Marion Maréchal notamment. Ils m'ont invité pour évoquer le sujet de l'immigration en France et plus particulièrement les conséquences de l'immigration en France.
Alors, vous avez produit non pas un petit discours, mais un grand discours devant l'Éternel. Qu'avez-vous donc dit pour éblouir votre audience?
C'est très gentil d'un coup, là. C'est vraiment merci de ces mots.
C'est vous qui les avez écrits.
Non, mais effectivement, donc je ne vais pas pouvoir déclamer tout mon discours, vous vous en doutez, chers auditeurs. Il dure 20 minutes.
On n'en a plus que 4.
Bah oui, c'est ça qui est dommage. Donc, on va essayer d'être efficace, mais effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de parler de manière un petit peu lyrique, je l'assume, et des frontières intérieures de l'Union européenne, celles qui disparaissent une fois qu'il n'y a plus de frontières extérieures. Pour le premier discours, je me suis inspiré d'une de mes collègues, en réalité, de Maëlys Clozel. Je pense qu'elle appréciera tout particulièrement ces mots.
Sur une terre, il existe deux peuples. L'exemple du Liban, qui est actuellement sous les bombes et sous le coup d'une occupation étrangère, devrait nous avertir. Aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait qui sont les principaux responsables des vols, des violences, des cambriolages, des viols, du narcotrafic, des règlements de compte à l'arme lourde, des rodéos urbains, des agressions gratuites, de la musique trop forte ou des vidéos sans écouteurs dans les transports en commun, des engueulades en public, des files d'attente à la CAF, des recels de téléphone, des squats, des meurtres au couteau. Tout le monde sait. Tout le monde sait que la principale responsable de ces nouvelles plaies d'Égypte, c'est l'immigration.
Voilà, alors vous la voyez pas, mais moi je la vois, mais Élise Clauzel est en train de sourire, et ça veut dire que j'ai tout réussi avec mon discours, avec tout ça. Alors je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc le deuxième extrait, on va peut-être pas avoir le temps de le diffuser, si ça pose pas de soucis. Mais voilà, tout simplement, j'ai essayé de décrire également ce que nous aimons et la raison pour laquelle nous nous battons, c'est-à-dire, en réalité, parce que nous aimons notre peuple et parce que nous pensons, eh bien, que nous pouvons gagner. Et c'est pour ça, en réalité, qu'il faut lutter contre l'immigration. J'ai parlé de ces frontières intérieures qui existent, ces barrières qu'on se forme désormais, dont parlait Xavier Van Lierde également dans cet excellent entretien de la semaine dernière, il me semble. Maintenant, effectivement, je voudrais vous faire écouter rapidement ma conclusion.
Pourtant, collectivement, parce que les migrants sont trop nombreux et que leur culture est trop différente de la nôtre, ils n'en sont pas moins une menace pour la civilisation que nous aimons tant et que nous avons mis 2500 ans à bâtir au prix de 1000 sacrifices. L'histoire que je vous ai racontée au début, eh bien, n'a pas encore de fin. Elle n'est pas condamnée à être une tragédie. Elle peut se conclure comme les contes de fées par ces mots. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cette civilisation, elle est belle et la France est le plus beau royaume après celui du ciel. Tout cela mérite de vivre. C'est pourquoi nous aimons, c'est pourquoi nous espérons. Donc vive la civilisation, vive l'Europe et surtout vive la France.
Bravo! C'est vraiment génial, ouais, merci.
C'est vraiment magnifique. Vous vouliez aussi parler de budget, je crois.
Oui, alors très rapidement, parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai un petit peu dépassé. Simplement, il y a un sujet dont personne ne parle aujourd'hui en France et qui est pourtant absolument inquiétant quand on se penche dessus, c'est celui du CFP. Alors qu'est-ce que le CFP? Eh bien en fait, en réalité, pour faire simple, c'est le programme de dépenses pluriannuelle de l'Union européenne, donc qui s'étend sur 7 ans, sur les années 2028 à 2034 inclus, et ce budget, eh bien, augmenterait de 59% par rapport à la séquence précédente, c'est-à-dire qu'on atteindrait les 2000 milliards d'euros sur 7 ans, c'est-à-dire vraiment, enfin voilà, plus 59%, et évidemment, s'il y a plus 59% de budget pour l'Union européenne, eh bien, ça signifie qu'il y aurait plus 60% de budget pour la France, parce que la France également est contributrice, comme vous le savez, à 18% du budget de l'Union européenne, ce qui signifie qu'en réalité, nous pourrions pas atteindre les 42 milliards par an de contribution à l'Union européenne, donc une hausse à la louche, évidemment, de 18% de notre de 60% de notre contribution nette, ce qui pourrait nous faire atteindre eh bien les 16 milliards de contribution nette. Ça, c'est quelque chose qui est estimable. En réalité, dans ces 2000 milliards d'euros, eh bien, il faut dire dans quoi l'argent va être dépensé. Donc, c'est plus de dépenses de fonctionnement pour l'Union européenne, c'est plus de nouveaux projets. Alors, une partie, c'est plutôt positif, hein, étant donné que c'est dans la défense et dans l'armement. Cependant, on peut aussi noter qu'il y a des dizaines de milliards qui sont prévus pour l'élargissement. Et pour l'élargissement à un pays en particulier, à l'Ukraine. Autre chose que je vais dire pour conclure, effectivement, c'est que la Cour des comptes européenne a dit elle-même que beaucoup de changements risquent de ne pas améliorer les choses. Comme ça, au moins, c'est clair.
C'est clair.
Et puis, en réalité, l'Union européenne essaye donc de mettre plus d'impôts directs, plus de recettes propres pour ne pas avoir à passer par les contributions des États et avoir directement son argent. Tout ça pour, eh bien, selon les estimations, un taux d'erreur estimé à 3,6%, c'est-à-dire la modique somme de 72 milliards d'euros pour de taux d'erreur. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous, chers auditeurs. Merci.
Eh bien, merci Alexandre. Et je reviens sur votre cravate, c'est pas grave.
Bah écoutez, non, maintenant je vais devoir réellement contacter la SNCF et puis me débrouiller pour essayer de la récupérer. Mais enfin, merci de votre sollicitude, Richard. Nul doute que c'est ce qu'ils ont retenu de plus important de cette chronique.
Absolument. Merci beaucoup, Alexandre.
Ligne droite, l'analyse.
Et je reçois à mes côtés une personne en t-shirt, donc sans possibilité aucune de cravate. Merci beaucoup d'être avec nous, Xavier.
Hein, c'est la meilleure méthode, je la conseille. Bah,
exactement. Mais par contre, vous aussi, vous aimez la France. Il y a marqué Terre de France sur votre t-shirt.
Tout à fait, tout à fait.
On était là pour parler d'autre chose, en fait.
C'est pas un placement de produit. Hein,
je crois que vous vouliez rebondir, entre autres, sur la chronique de, enfin pas la chronique, les interventions excellentes de Joseph Touvenel hier à l'antenne, et nous parler.
Oui.
Vous aussi, de valeur travail.
Exactement, en effet. Je voulais vous parler ce matin, à la suite en effet des interventions qui ont déjà eu lieu sur l'antenne, de la fameuse, que dis-je, de la sacro-sainte valeur travail. Mais qu'est-ce exactement que cette valeur travail? omniprésente dans le débat public. Eh bien déjà, c'est une expression que l'on entend généralement dans la bouche des représentants du bloc central macroniste ou de la droite libérale, parfois pour conspuer les fameux « parasites sociaux », mais plus généralement pour tenter de faire passer la pilule d'un énième report de l'âge de la retraite ou de la suppression d'un nouvel acquis social. Car en effet, si le travail a une valeur en soi, qu'il élève par nature l'homme et lui donne toute sa noblesse, il faudrait vraiment être le dernier des bolcheviks, doublé du dernier des fainéants, pour refuser de travailler toujours plus, toujours plus longtemps, toujours plus durement, dans des conditions toujours plus détériorées et avec toujours davantage de flexibilité. Plus de travail, plus de valeur, pas de travail, pas de valeur. Alors au-delà de la vision purement matérialiste et utilitariste de l'existence qu'incarne cette équation, interrogeons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur le bien fondé de celle-ci. Le travail a-t-il vraiment une valeur en soi, une valeur ontologique, pour être un peu pédant? Alors ce n'est en tout cas pas ce que pensaient nos ancêtres grecs, qui considéraient le travail matériel et productif comme une activité servile, nécessaire certes, mais incompatible avec la pleine vertu et la vie du citoyen libre. Un mal nécessaire, donc, placé très en dessous de la contemplation, des arts et de la participation à la vie politique de la cité. Le genre d'occupation appelée mécanique a mauvaise réputation et sape le caractère d'une personne libre. Personne ne doit trouver convenable d'amasser de la richesse grâce à de telles activités, disait ainsi Platon, qui ne devait pas imaginer qu'un jour la vie de la cité serait régentée par les oukases du MEDEF. Mais si vous voulez bien, passons et admettons que le contexte a radicalement changé et que nos philosophes...
Et oui, nous n'avons pas 99% d'esclaves à notre disposition.
Ça fait partie de l'équation et peut-être nos philosophes n'étaient finalement que des proto-assistés sociaux avec un poil dans la main aussi long que leur toge. Revenons donc à notre époque et reposons la question, le travail a-t-il véritablement une valeur en soi? Sans doute, et même certainement lorsqu'il a du sens, une utilité pour la communauté, et qu'il permet de vivre et de faire vivre dignement sa famille. Mais est-ce aujourd'hui encore majoritairement le cas? Alors à l'heure de la multiplication des bullshit jobs, alors pardon, des boulots à la con, hein, pardonnez-moi pour la vulgarité, ces emplois rémunérés qui sont si totalement inutiles, superflus ou même néfastes que même le salarié rémunéré ne parvient pas à justifier leur existence, à l'heure également où les revenus du travail sont davantage taxés que ceux du capital, c'est-à-dire ceux de la spéculation et de l'usure, et où ils ne permettent plus d'accéder à la propriété de son logement, on peut hélas fortement en douter. C'est pourquoi on peut légitimement se demander si tous ces beaux discours libéraux sur la valeur travail ne servent pas tout simplement de cache-sexe pour justifier l'exploitation capitaliste et la captation de plus en plus évidente et de plus en plus monopolistique des fruits de ce fameux travail par une infime minorité d'ultra-riches dont on ne peut penser qu'ils sont totalement innocents dans l'affaire et que ce sont finalement eux les véritables prédateurs d'une économie nationale qui leur est entièrement soumise. Alors en réalité, on vante les travailleurs, mais comme on célèbre le consommateur. Tant qu'il produit et consomme, son existence est justifiée. Dès qu'il ralentit, revendique, qu'il s'interroge sur la finalité de ses heures de boulot et qu'il ne se contente plus de la valeur symbolique de son travail, il devient immédiatement un poids, un coût, un contestataire, un paracommuniste, presque un factieux. Pourtant, le salarié qui enchaîne les CDD, les heures supplémentaires pas ou mal payées et les trajets épuisants n'est pas un héros du travail. Il n'est que la variable d'ajustement d'un système qui a fait de la concurrence mondiale un dogme et de la solidarité nationale un luxe. Et c'est bien là que le bât blesse et que le mensonge apparaît. Ni le bloc central, macroniste, ni la droite libérale ne défendent en réalité le travail. Ils défendent en réalité le marché, le capital et la bourse, ce qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. S'ils défendaient véritablement le travail, ils militeraient pour la hausse des salaires et des minima sociaux, pour la défense du droit des travailleurs, pour l'amélioration de la protection sociale. Or, tout au contraire, ils ne cessent de réclamer plus de dérégulation, plus de flexibilité, plus de mise en concurrence et plus d'atteinte au code du travail. Preuve hautement symbolique, s'il en est, que ce système, malgré les discours grandiloquents, ne défend pas réellement le travail, la récente suppression des avantages fiscaux pour les détenteurs de la médaille du travail. Alors cette médaille est accordée à des hommes et des femmes qui ont passé 30, 35 ou 40 ans au service d'une entreprise, d'un artisanat ou d'une administration. Jusqu'alors, on leur remettait une médaille accompagnée de quelques exonérations fiscales symboliques, reconnaissance d'une vie tout entière consacrée au travail. Ces exonérations représentaient des sommes tout à fait dérisoires au regard, par exemple, des milliards brassés par l'optimisation fiscale des grands groupes ou des stock options de certains dirigeants. Sans parler, bien évidemment, des sommes faramineuses distribuées à toute la misère du monde. Pourtant, le gouvernement a jugé bon et impérieux de les supprimer, révélant ainsi son dédain pour les véritables travailleurs. C'est pourquoi, si la valeur travail mérite, sans doute, et certainement d'être réhabilitée et défendue, c'est à condition de la soustraire aux libéraux qui l'ont confisquée. Et rappelons également, pour conclure, que l'homme n'est pas qu'un producteur. Il est aussi un être de culture, de transmission, de contemplation. S'il faut travailler pour vivre, il ne faut pas vivre pour travailler.
Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique. J'avoue que je suis partagé. Alors d'abord, évidemment, enthousiasmé par votre talent, mon cher Xavier Aymon. Je signale d'ailleurs à tous les auditeurs que Xavier dédicacera son ouvrage « Une fin du monde sans importance », le volume 3, cet après-midi de 17h à 19h à la librairie Logos, donc 115 avenue de la Bourdonnais dans le 7e arrondissement. Voilà, donc évidemment, votre talent, comme d'habitude, me laisse non pas sans voix, mais au contraire atteint de logorée.
Vous êtes bien indulgent.
Et par ailleurs, je ne vois pas en quoi la défense des prestations sociales serait une défense du travail. J'ai l'impression qu'on peut défendre le travail, par exemple, en défendant la petite propriété, en défendant des organisations non pas syndicales de lutte des classes, mais en défendant des organisations qui permettraient de réunir tous ceux qui ont le même métier, donc
les corporations,
voilà, et pas donc en opposant donc une classe ouvrière indifférenciée à une classe patronale indifférenciée, qu'on pourrait favoriser la possession par le travailleur des outils de la production. Là, je visitais une menuiserie qui travaille pour les monuments nationaux. Chaque compagnon du devoir qui est employé par cette menuiserie a sa caisse à outils. Ce sont ses outils, exactement comme un cuisinier a ses propres couteaux. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui permettraient de défendre effectivement le travail, dire en rendant en fait le travailleur beaucoup plus libre de proposer sa force de travail plutôt que d'être soumis au désir du capitalisme. Mais du coup, je vois pas bien ce que la protection sociale vient faire dans l'histoire.
Ah bah, la protection sociale, c'est qu'un des éléments. C'est qu'en effet, il faut qu'un salarié puisse bénéficier d'arrêts de maladie. On a l'impression aujourd'hui que les arrêts de maladie sont des vacances déguisées, qu'il faut absolument lutter contre les arrêts de maladie. Moi, je trouve ça normal qu'un salarié ou un travailleur qui tombe malade puisse continuer à être payé sans qu'il y ait 3, 4, 5, 6 jours de carence à cela. Il faut un minimum de prestations sociales pour protéger un salarié qui est en situation quand même, on va dire, de précarité par rapport à son employeur. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser couler, évidemment, les prestations dans tous les sens. Il faut les contrôler. Encore une fois, il s'agit de raison gardée, mais vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il ne faut pas tomber, en effet, dans un manichéisme, j'irais là pour le coup marxiste, qui opposerait voilà, les travailleurs au patron. Il faut faire des distinctions. Et le patronat, c'est pas une entité unique, homogène. Mmh. Il y a évidemment des petits patrons et des grands patrons qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ça qu'il faudrait qu'eux-mêmes, parfois, comprennent, qu'ils sont souvent plus proches des intérêts de leurs employés que de ceux des patrons du CAC 40. Il faut évidemment faire du cas par cas. On n'est pas là pour relancer une lutte des classes qui serait basée sur des classes qui n'existent plus, d'ailleurs, puisqu'elles n'ont plus conscience d'elles-mêmes. Le prolétariat, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, etc., etc. Ce que je voulais dire dans cette chronique, c'est surtout qu'on essaie de nous vendre le fait que le travail serait une valeur en soi, quelles qu'en soient les conditions. Et ça il faut le refuser, parce que c'est une façon de nous dire, en fait, accepter plus d'heures, accepter, on va revenir sur les 35 heures, on va encore repousser, parce qu'en fait, le travail, c'est bien, et si on ne travaille pas, en fait, on n'est pas quelqu'un d'utile à la société.
Et là-dessus, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement le côté un petit peu, où tout simplement l'activité, c'est meilleur que l'oisiveté, tout simplement. Et donc, on va dire que quelqu'un qui a un travail est actif, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, les actifs. Et quelqu'un qui n'a pas de travail est un inactif. Et donc, forcément, être actif, c'est meilleur qu'être oisif. Pour ça, pour le coup, ça me semble assez.
Ça dépend dans quelle proportion. Moi, l'oisiveté, heureusement qu'il y a de l'oisiveté pour qu'il y ait de la création, pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait de la réflexion, et de la vie intérieure.
C'est là que l'idée en soi du droit à la paresse, c'est de la farge, justement, en réalité, est bien moins caricaturale qu'on le dit. Mais de manière générale, sans doute que l'activité est meilleure que l'oisiveté. En revanche, je pense que là où je vous rejoins tout à fait, c'est que je pense qu'il y a une conception du travail qui est très, enfin qu'on a aujourd'hui et qui est héritée d'une époque qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Et en réalité, toutes les nouvelles réflexions sur le travail, qu'elles viennent quelque part de la gauche ou de la droite, viennent du fait que le travail ne rapporte plus du tout de la même manière qu'auparavant, et qu'en fait la génération, pour faire simple, des boomers qui travaillaient beaucoup, et ben en fait pouvaient obtenir beaucoup.
C'est encore tapé sur les boomers.
Oui, je vais en profiter, mais j'ai trouvé une fenêtre de tir. Non, mais plus sérieusement, c'est cette idée selon laquelle, si vous voulez, à l'époque, on peut travailler très tôt et avoir une maison très tôt, avoir une femme, des enfants très tôt, une voiture, etc. Dans les années 90-2000, il y a une autre génération qui rentre sur le marché de l'emploi, qui a très peur du chômage et qui, elle, va justement travailler énormément pour éviter le chômage. Sauf que la génération nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, la raison pour laquelle elle ne veut pas travailler autant, sans doute, que les générations précédentes, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'accédera pas à la propriété, qu'elle sait qu'elle n'accédera pas à la retraite, qu'elle sait qu'elle n'accédera pas à toutes ces choses-là, oui, et donc forcément...
Et qu'elle a vu ses parents se faire mettre au chômage malgré la qualité du travail fourni.
Voilà, et puis elle a vu la famille déclassée à cause d'un divorce, enfin, c'est souvent des choses qui arrivent. Donc en réalité, je pense que, comme vous dites, le travail aussi doit signifier un résultat derrière, et forcément qu'aujourd'hui, en travaillant, mettons, 50 heures par semaine, on n'a pas du tout les mêmes résultats qu'à l'époque il y a 50 ou 60 ans.
Il est aujourd'hui quasiment impossible de se constituer un patrimoine uniquement avec son travail. Les salaires sont clairement trop bas.
Et maintenant, c'est avec l'héritage que ça arrive.
On ne peut pas demander aux gens d'avoir en effet le même investissement dans leur travail si ce qu'ils gagnent à la fin du mois leur permet à peine de vivre et de survivre pour certains. On a beaucoup de gens qui travaillent dans des villes, dans lesquels ils ne peuvent pas loger parce que les prix sont trop élevés. Donc ça les oblige à des conditions de travail, à des trajets extrêmement longs. Quand on a 2 heures pour venir, 2 heures pour repartir, on va pas s'investir, on va pas rester jusqu'à 21h à son boulot. Par contre, si on habite à côté, on peut rester un peu plus tard sans que ça ait les mêmes conséquences, etc. Donc il y a en effet tout un tas de problématiques qui se rejoignent. Mais je voulais quand même tenir à dire, mon propos, c'est pas de contre le travail en disant c'est bien d'être au chômage, etc. C'est en effet remettre le travail, et le véritable travail, c'est-à-dire le travail par exemple des métiers, redonner sa valeur réelle au travail et non à la spéculation, non aux investissements spéculatifs, etc. C'est-à-dire que si on veut que les gens travaillent, comme vous l'avez très bien dit, il faut qu'ils aient en retour une satisfaction déjà évidemment financière, mais peut-être aussi symbolique, qu'ils soient reconnus comme étant utiles à la société, utiles au pays, etc., etc. Donc, moi, ma position, c'est de refuser cette idée que le travail serait bon en soi. Moi, un publicitaire staccanoviste, il peut travailler 90 heures par semaine, je préfère 100 fois un poète qui est à mi-temps, qui a un petit boulot à mi-temps pour avoir le temps d'écrire ses poèmes et d'essayer de construire une œuvre.
Mais là vous distinguez, enfin vous ajoutez à ce mot travail une notion salariale en fait.
Le publiciste peut très bien être indépendant, c'est d'expliquer que
le travail est forcément lié à une rémunération, alors qu'on peut très bien imaginer que le mot travail n'est pas forcément lié à une rémunération.
Ah oui, bien sûr.
La revalorisation de la valeur travail, c'est effectivement le sens qu'on y trouve, l'échange.
Exactement.
Avec cette parabole, qu'est-ce que vous faites? Je casse des cailloux, qu'est-ce que vous faites? Je taille une pierre, qu'est-ce que vous faites? Je construis une cathédrale, effectivement. Si celui qui est en train d'extraire une pierre dans une carrière a l'impression qu'il est en train de construire une cathédrale, il y a une chance qu'il y trouve plus de satisfaction intellectuelle, indépendamment de sa rémunération, que celui qui est juste en train d'avoir l'impression de scier des blocs.
Et ça, c'est fondamental. Alors, il faut qu'il y ait les deux, hein, parce que sinon on voit bien que ça pourrait être un, comment dire, il faut pas donner que du symbolique, mais c'est le symbolique.
En même temps, ceux qui travaillent à Radio Courtoisie sont payés une misère et on continuera à les payer misère, parce que ils ont le sentiment de construire une œuvre, mais plus durable que les reins.
Vous aussi, chez Les Reins, vous êtes
payé des clopinettes et vous êtes ravis d'être payé des clopinettes.
Je ne suis pas ravi d'être
François Bousquet, si tu nous écoutes.
Mais évidemment, moi, j'ai quand même la chance, en effet, de faire un métier qui me passionne et que je pense, à tort ou à raison, utile. Mais combien sont dans ma situation? Et en effet, ça se fait au prix d'une relative, on va dire, précarité économique. Mais ça, c'est un choix personnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des métiers, entre guillemets, passion, comme on aime à dire. Alors, on peut pas rêver d'un monde où tout le monde le fasse. Mais il faut trouver, justement, un équilibre. Et ceux qui ont des métiers plus durs, eh ben, l'absence de satisfaction morale doit être compensée par notamment le salaire et un certain nombre d'avantages. Quand la pénibilité du travail doit être compensée, elle doit pas être niée comme le font certains hommes politiques aujourd'hui qui expliquent qu'il y a plus de pénibilité du travail, que les je voyais des gens qui faisaient un déménagement tout à l'heure, quand on fait ça toute la journée, bah en effet on part pas à la retraite à 65 ou 66 ans, quoi.
La notion de pénibilité, moi je la trouve assez compliquée quand même, parce que effectivement j'entends que évidemment le couvreur ou autre va risquer largement plus sa vie, sa santé,
à 40 degrés sur un toit,
que nous
dans un studio
notre micro.
Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais c'est pas la même pénibilité.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche...
En même temps, vous êtes enfermé avec moi. Il y a un autre type de pénibilité.
Il y a un risque psychosocial
qui est assez fort.
Mais simplement pour finir, je pense qu'il y a quand même un élément à la pénibilité qui n'est pas encore pris en compte, c'est tout ce qui est évidemment du côté psychologique de la pénibilité, qui pour le coup n'existe pas encore, mais il y a des tâches qui sont extrêmement... Enfin, j'en sais rien, mais si vous passez 8 heures par jour assis devant un tableau Excel à faire des manipulations, etc. En réalité, c'est pas du tout bon pour la santé déjà en général.
Mais
ça, pour le coup, c'est pas encore pris en compte.
Ah non, on va pas vers cette tendance-là, malheureusement. Malheureusement.
Non, effectivement, mais...
Merci d'avoir débouché sur la pénibilité. Il faudra qu'on revienne sur aussi ce que vous avez esquissé, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un accaparement de la richesse par une superclasse mondiale, et une richesse qui, elle, est totalement déconnectée de l'économie réelle, et ce qui fait que les masses... OpenAI est valorisée 600 milliards de dollars, alors qu'elle fait 20 milliards de chiffre d'affaires et 8 milliards de pertes.
Oui, il y a une décorrélation totale avec le réel.
Il y a quelqu'un qui est milliardaire parce qu'il réussit à ne rien produire, qui soit rentable. Donc ça, c'est absolument stupéfiant. Et donc quand on nous parle de valeur travail, qu'à côté, on nous montre ce genre de réussite, il est évident qu'il y a une déconnexion absolue du discours des politiques et de la réalité vécue par les citoyens.
C'est tout à fait... je signe des deux mains ce que vous venez de dire. Voilà. C'est vraiment un problème. Et surtout quand on explique parallèlement aux gens qui doivent faire des efforts, ben volontiers. S'il n'y a pas d'événement extraordinaire qui me...
Ce sera la dernière de la saison.
Ah, de la saison, j'avais un petit problème temporel.
Et nous pendrons le capitaliste avec les... nous pendrons le dernier des capitalistes avec les dernières lignes de votre chronique.
Je m'y attelle alors dès la sortie du studio.
Parfait. Merci beaucoup, Xavier Aymon. Merci Alexandre de Galzin.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec Maximilien Frisch. Bonjour Maximilien.
Bonjour Richard.
Voilà, vous êtes éditeur aux éditions Nouvelle Marge et vous animez la revue en ligne Mauvaise Nouvelle, à laquelle participe très régulièrement Sarah Vajda.
Exactement, et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui.
Ah, mais quel hasard.
Ben oui, tout à fait. Donc cette chronique lui est consacrée, cet écrivain... majeur, Sarah Vajda ou Vajda, selon qu'on prononce à la française. Commençons par la présenter et après je vous parlerai de ses livres. Alors comment présenter cette bohémienne que notre monde utilitariste rend folle en permanence, cette juive barésienne plus patriote que tous les idolâtres du roman national, cette parisienne qui confond le Marais avec la Camargue, et cette érudite, capable d'humilier des cortèges d'académiciens, parce que gare à vous, Richard, si vous souhaitez la ramener devant elle, parce qu'elle a des longueurs d'avance, des mètres linéaires de bibliothèque et surtout des années-lumière de lucidité, elle est un peu cette Esmeralda dépositaire d'une mémoire universelle. Bon, alors, Sarah Vajda, elle était d'abord femme de théâtre, metteur en scène pendant 20 ans, avant-gardiste, bien avant l'avant-garde d'ailleurs. Et c'est à force de réécrire des morceaux de pièces, de rendre performant tout texte, qu'elle plonge en littérature. Et c'est d'abord avec une thèse sur Monterland. Puis, Flammarion lui commande des biographies. Elle choisit bien sûr Barrès, hein, avec un beau succès. Et puis après, il y a eu Edern Allier, Gary, Wingate, hein, ce chrétien sioniste, ce Laurence de Judée, comme on l'appelait. Et dans les romans, bah, il y en a eu 6. Et je vais vous parler que de 2 de ces 6 romans. Et d'abord, Les Jeux sont faits. Vous l'aviez reçu d'ailleurs, Richard, pour Les Jeux sont faits. C'était en 2024. Une dystopie, une enquête policière et un conte philosophique en même temps. L'État actualise sa providence et impose l'euthanasie obligatoire pour tous les plus de 68 ans, sous peine de se voir privé de tout, identité, sécurité sociale, carte bancaire, etc. Jacques a dit « Rien ne va plus, les Jeux sont faits, un père épasse la vieille, tu te casses ». Hein, voilà, le programme s'appelle effectivement Les Jeux sont faits, mais rien de violent, hein, rien de violent. Il s'agit tout simplement d'une sorte de dernier parc d'attractions permettant de se faire buter en douceur et allégresse, honneur et dignité. Alors Sarah compose une fugue, hein, pour ses personnages, la fugue des êtres pour la vie. Première voix, celle de Mireille, 67 ans, qui a décidé de fuir le programme d'euthanasie obligatoire, plutôt crever, hein, que se faire euthanasier. Puisque mourir il faut, elle mourra au soleil, surtout au temps prescrit par la chronologie, la biologie et merde au législateur qui prétend élire l'heure. La deuxième voix, c'est celle de Davia, la narratrice, hein, qui se superpose dans un canon polyphonique. Orpheline, elle se choisit Mireille, la survivante, comme mentor et comme mère, et nous sommes désormais en Corse. Hein. L'île apparaît comme une utopie, et cette dernière a fait sécession définitivement avec la métropole, et accueille les vieux, bien sûr. Et ici, le combat est d'un autre ordre. On veut résister à la monoculture touristique par une forme de terrorisme. Et là, on bascule dans une enquête autour d'un attentat, fil rouge du roman. Et Sarah incorpore le romanesque à la patte du conte philosophique. Et c'est à la toute fin que toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans l'esprit d'une tragédie à la Pagnole, finalement. Et petite leçon du conte, c'est quoi, hein? Que ce soit par l'euthanasie pour tous ou le tourisme, l'ennemi identifié est donc toujours le capital. Vous en parliez tout à l'heure avec Xavier Aimant. Hydre aux multiples manifestations qui s'organisent pour gérer le bétail humain. Hein, toujours le nazisme se déguise en humanisme, en démocratie, en camp du bien. La fugue que nous offre Sarah, elle nous arrive avec sa langue, hein, très particulière. Hein. Son texte est un véritable jukebox littéraire, fait de chansons, de films, de livres. T'as la ref, on a l'impression qu'elle nous dit ça en permanence, Sarah. Vajna flirte avec l'implicite exclusif, mais on ne lui reproche pas car son exigence et générosité. Et les phrases ont donc plusieurs caudalies et on oscille entre swing et feu d'artifice permanent. C'est ainsi que tout devient chanson. Et ce qui nous reste finalement de son livre, hein, Les Jeux sont faits, c'est un petit air, le dernier blues de l'être face au capital, aux algorithmes, aux idéologies fouteuses de gueule. L'État peut jouer les gros bras, la résistance toujours aura le dernier mot. Donc c'était « Les Jeux sont faits » de Sarah Vajda, c'était au Cherche Midi, c'était en 2024, récemment. Le deuxième roman que j'aimerais évoquer, c'est Yaroslav et Djamila, bien sûr. Le roman qui inaugura les éditions Nouvelle Marge il y a 10 ans, un roman d'amour. J'ai eu la chance donc d'avoir ce livre pour commencer. Et les deux héros, hein, Yaroslav et Djamila, ont un point commun, étrangers l'un à l'autre, ils sont surtout étrangers à eux-mêmes, ils ont été arrachés à leur destin. Djamila se croyait Mila, française de cœur, de culture. Elle aurait pu être le symbole de cette fameuse assimilation heureuse des années 80, hein, attendant le prince charmant à la prochaine fête du lac d'Annecy. Mais la mort de sa mère la plonge dans un no man's land où elle ne sortira pas, où on décidera pour elle, de la banlieue de Marrakech au 9-3, c'est kiff-kiff. On la recueille moitié folle, emmurée vive dans un mariage non désiré avec Mehdi, l'exacte figure à laquelle toutes les femmes, dans toutes les civilisations, en tout temps, donnent le nom de mari idéal. Mais vint Yaroslav. Lui, il quitte l'Ukraine dans un lent et long exil économique qui lui fait traverser l'Allemagne, s'arrêter en France, avant d'aller plus loin. Son destin, c'est quoi? Chercher à gagner plus en allant travailler plus loin. Et la brève rencontre a lieu. Alors bien sûr, brève rencontre en référence à David Lean, hein, et Yaroslav et Djamila donc, sont illuminés par cette rencontre qui réintroduit ce qui leur manque, la poésie et la tragédie. Et comme des adolescents, chastement, ils vont s'aimer pour s'en souvenir. Une âme ne s'élève qu'à la condition de désirer l'inaccessible, à savoir l'amour impossible. Hein. Donc ça me parle, bien sûr. Et chacun se raccroche au prénom de l'autre pour résister à la folie des hommes. C'est quoi la folie des hommes? Le capitalisme, on l'a dit, encore une fois. Le multiculturalisme, l'islam et ses misères. En effet, parce que arraché à son identité française, revenu à la case départ du 9-3, Cité des poètes, prends ton lutte et me donne un baiser, elle apprend désormais que Kirche Kinderküche se traduit en langue française par mosquée maternité ménage. Donc Sarah Vajda nous offre un poème tragique. Elle offre un poème tragique aux humbles, voué à l'ordinaire de toute éternité. Et ce n'est pas un discours social que Sarah Vajda livre. Elle n'est pas venue faire pleurer dans les chaumières, mais faire rêver dans les HLM. Jamila mérite mieux que Zola. Elle aura Antigone, la princesse de Clèves, chez Razad. Sarah Vajda, fidèle à son amour du théâtre, se paye même le luxe de basculer une douzaine de pages de son livre sur les planches. Un dialogue surgit pour faire le procès d'Oncle Hafez qui maria Jamila de force et Jamila de déclamer sa vie. Morgue, hôpital, silence, on se tait, il s'agit de presque rien, de ma vie, vous parlez de ma vie, à quel titre? En quel nom? Que savez-vous de moi, vous qui parlez pour moi? Juste un stéréotype, 7 milliards de voix, sature le silence. Je n'existe pas et ne suis pas une autre personne. Un nom dans le dossier acculturation de Nico, à la lettre D, Jamila. Je ne parle de moi qu'afin de corriger vos mots, rectifier votre jugement. Après, je m'en irai. Trois petits tours et pff, ce sera comme si je n'avais pas vécu. Chut, taisez-vous. Après tout, c'est vous qui vouliez l'entendre. Le récit du mariage de Jamila, la danse des sept robes, trois jours de noces, jour de folie et nuit d'orgie. Un jour pour les mâles, danseuses et billets au corsage, sous les tables, whisky et pépé à gogo, strippé open bar, rififi chez le pieuxard, les bons dieuxards. Servi par les dames de la maison, la seule chose qui ne change pas. Servitude inscrite dans les gènes, coincée dans la matrice, ancrée dans le cerveau reptilien. Je m'insoumets, je décide en silence. J'ai oublié les conseils grivois en veux-tu, en voilà. Hein, les matrones youyoutantes qui ont exalté ma pureté perdue, l'honneur perdu de Jamila qui s'était prêtée sans amour, rompu la promesse faite à sa mère de n'offrir le sanctuaire de son corps qu'à un garçon qu'elle croirait aimer, trop occupée à songer, à l'avion qui m'emportera loin d'ici. La boue est faite de mes larmes, ténébreuses, inconsolées, amertumées. J'étais venu en résistance, ignorant qu'elle serait surveillée. Je pars sans avoir rencontré l'Afrique, ses sorciers, ses contes, ses mystères, seul l'islam. Et ses misères d'une rive l'autre, l'océan. Voilà le style de Vajda, j'ai voulu lui donner sa langue un peu, sa pop poésie, sa littérature et théâtre au sens où elle est une voix obstinée, un timbre qui ne cesse de résonner.
Merci mille fois Maximilien Frisch. Et voilà, j'espère que tout le monde va se ruer sur les deux livres de Sarah Vajda, en tout cas ces deux-là et tous les autres, bien évidemment. Merci et à bientôt sur Radio Courtoisie.
À bientôt.
Et tout de suite, là, nous allons enchaîner avec une leçon de savoir-vivre par Jérémy Combe, avant de rejoindre Tuc Dualderville qui nous parlera du dernier Valeurs Actuelles.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Ligne droite.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Jérémy, aujourd'hui, plus que tous les autres jours réunis, je crois que vos tuyaux vont être les bienvenus, j'en suis persuadé. Alors, que se passe-t-il lorsque nous avons oublié un dîner, zappé un rendez-vous chez le médecin, oublié un appel avec un collaborateur, être arrivé en retard à un rendez-vous avec un prestataire, j'en passe. Comment se faire pardonner pour l'amour de Dieu?
C'est une bonne question, Richard. Parce que moi, le premier, j'avoue avoir déjà vécu l'une, voire plusieurs de ces situations. Et pourtant, Louis XVIII disait déjà que l'exactitude est la politesse des rois. Dans les codes de bienséance, il faut apprendre la ponctualité à vos enfants dès le plus jeune âge. Les codes veulent que l'on soit à l'heure, voire un peu en avance, ou pour un dîner 15 minutes après l'horaire déjà. Mais ça, on l'a déjà vu. Mais parfois, nous sommes en retard sans être responsables.
Alors, que doit-on faire lorsqu'on oublie un rendez-vous ou que l'on arrive en retard?
Le pire, et c'est monnaie courante, est d'arriver en retard en donnant des raisons pratiques. Le camion des éboueurs m'empêchait d'avancer, il y avait des travaux sur la voie, je sors d'une réunion fleuve. Non, on demande pardon, on ne s'excuse pas. Je m'excuse est interdit. En revanche, je vous prie de m'excuser, c'est accepté. Donc, Un mot d'explication est nécessaire, mais le problème est l'absence justement d'excuses. Sous prétexte que le retard est justifié, de nombreuses personnes ne présentent pas leurs excuses pour avoir fait attendre l'autre. Et ça, c'est inconvenant.
Alors, parfois, on part un peu en retard à un dîner, et donc on sait, ma femme et moi, oui. que l'on ne va pas être dans les clous. Que doit-on faire ?
Plus de 15 minutes, vous envoyez un SMS maintenant, parce que c'est rapide, et vous prévenez vos hôtes. On ne téléphone pas pour ne pas les déranger. Ils sont sans doute dans les derniers préparatifs, ils ont déjà, ceux qui sont à l'heure sont déjà en train d'arriver. Et donc, ils ont même parfois, et ça c'est l'enfer, des personnes qui sont arrivées en avance. On se fait petit, pas d'entrée à la Céline Dion. Et si les personnes sont déjà à table, eh bien on prend sa place sans se faire remarquer. C'est que là, vous êtes vraiment très en retard.
Alors, le pire du pire, c'est quand même d'avoir complètement oublié une invitation ou un rendez-vous.
Effectivement, c'est un énorme moment de solitude. Si c'est professionnel, ne cherchez pas trop de prétextes. Il faut avouer et présenter là ses excuses. Proposer immédiatement d'autres dates et aussi proposer un déjeuner que vous réglerez, Richard. Vous verrez si les autres acceptent ou non ce report. Si c'est personnel, il faut vous fendre d'un bouquet selon l'étiquette ou d'un cadeau plus personnel si vous êtes proche. Et le mieux est de le faire livrer. Ça a un coût d'être dans la lune. Pour marquer des points, mon conseil, écrivez une lettre de château.
Autrement dit, une lettre d'excuse.
Une lettre d'excuse en disant « Nous avons complètement oublié, pourtant nous faisions une joie. » Mais ça peut vraiment arriver d'oublier un dîner. Hein.
Absolument. Quand même, Jérémy, on ne peut jamais être en avance avec vous.
Non, parfois c'est vrai, ça peut jouer en notre faveur. Par exemple, pour un entretien d'embauche, il vaut mieux arriver 15 minutes avant. Un rendez-vous galant, la personne qui invite se doit d'être là en avance. Puis il y a des cas particuliers. Un dîner au restaurant. Un retard même de 5 minutes, il faut prévenir l'autre. Car aujourd'hui, les restaurateurs sont très à cheval sur les horaires. Donc ça permet au premier de garder la table. Chez des amis, si vous avez moins de 15 minutes de retard, pas la peine de s'excuser. Si vous ne dites pas que vous allez être en retard, les personnes qui reçoivent peuvent faire passer à table avant votre arrivée. Et là, c'est la honte. Mon conseil à celles et ceux qui reçoivent, si vous connaissez les défauts de vos amis, mentez un peu sur l'heure à laquelle vous souhaitez que le dîner commence. Parce qu'il y a quand même des spécialistes du retard.
Voilà des conseils très moraux. Merci beaucoup, Jérémy.
Je vous en prie, à très bientôt.
Ligne droite, la revue de presse.
Et la revue de presse, c'est avec... Tugdual Denis, qui nous parle du dernier numéro de Valeurs Actuelles, dont la couverture est tout à fait parlante, « Viol à l'école, l'Omerta ».
Bonjour Richard, bonjour à vos auditeurs.
Bonjour Tugdual.
Écoutez, effectivement, ça fait quelques semaines que commence à surgir dans le débat public un scandale qui est lié à des agressions sexuelles et des viols dans le cadre du périscolaire, notamment à Paris, il y a eu pas mal de cas. Donc le périscolaire, c'est quand les enfants ne sont pas avec leur maîtresse ou leur maître, mais qu'ils sont avec des animateurs recrutés par des municipalités en dehors du temps scolaire avant que leurs parents les récupèrent. Il y a eu évidemment quelques articles, quelques émissions de télévision aussi. Il faut rendre grâce à Cache d'Investigation, une émission de télévision de France 2 qui a notamment fait un documentaire absolument saisissant sur ce sujet.
Et qui a attendu 9 mois pour le libérer, laissant ainsi l'intégralité des prédateurs sexuels libres de continuer leur prédation pendant 9 mois.
Vous avez aussi raison, effectivement, de pointer cela. Mais néanmoins, ça a quand même permis de faire surgir le sujet. Et en fait, ce qui nous a frappé, c'est que il y a eu certes quelques articles, mais ce sujet devrait faire la une du 20h TF1, de France 2, de France 3, tout ce que vous voulez, tous les jours, pendant plusieurs mois, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un seul monstre dans aucun centre aéré qui commette des actes absolument immondes et inqualifiables sur les enfants. Il y a une novlangue, on a dit l'omerta en une, parce que je trouve qu'il y a un silence médiatique, il y a quelques articles, mais je veux dire, quand je vois la bande passante, comme on dit dans le jargon, qui est consacrée à des sujets bien plus accessoires et que celui-là ne fait pas la une, ça nous scandalise. Et puis par ailleurs, il y a cette espèce de novlangue qui, dans certains cas, dans l'actualité et avec les journalistes, est utilisée comme des pudeurs de gazelle bizarrement sorties d'un coup. Et donc, on nous parle d'agression, le scandale des agressions dans le périscolaire. Alors, ce ne sont pas des agressions, ce sont des viols. Ce n'est pas le périscolaire, certes, c'est évidemment en dehors du temps de l'école pure, mais c'est dans les enceintes des écoles. Est-ce que vous croyez qu'un enfant de 3 ans et demi qui se fait violer dans sa classe, il fait la différence symboliquement quand il fait des cauchemars ensuite la nuit avec « Ah mais oui, mais c'est pas l'école ». Si, bien sûr, donc ça... La force symbolique, la représentation symbolique de l'école est détruite pour le reste de sa vie. Et tout ça participe d'une société qui, selon moi, ne sait pas dire les mots quand elle ne sait pas se regarder en face, en fait. Et je crois que là-dessus, on ne sait pas se regarder en face. Et ensuite, il y a ce que ça dit de l'espèce de décadence française. C'est-à-dire que, honnêtement, vous verriez le niveau des... Je suis père de famille, hein, d'enfants concernés par des activités périscolaires. Vous verriez le niveau, la dégaine, le langage, l'allure des animateurs de centres aérés aujourd'hui en France. C'est absolument pathétique. Ils sont recrutés en 4 minutes 12. Évidemment, c'est wesh wesh et compagnie au niveau du vocabulaire. Ils ne tirent pas du tout nos enfants vers le haut. Et en plus... Dans cette espèce de nivellement par le bas de société absolument médiocre, se glisse avec d'autant plus de facilité des pédophiles qui, de tout temps, ont choisi des milieux où prospèrent des enfants. Les pédophiles ont toujours agi de la sorte, il suffit de parler avec n'importe quel pédopsychiatre. En revanche, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'on était une société mieux organisée, avec des garde-fous, avec évidemment un niveau scolaire et un niveau d'éducation et un niveau de vigilance et de répression bien supérieur. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de consacrer cette une à ce sujet assez remuant. Je me suis permis au début de mon éditorial de m'excuser auprès des lecteurs de Valeurs Actuelles, parce que l'article et le dossier signé par Pauline Condomine soulèvent le ventre.
Effectivement, on apprend un nombre de détails qu'on aurait préféré ignorer, mais qu'il est nécessaire de porter à notre connaissance. C'est bourré de chiffres. J'aurais juste revenir, avant qu'hélas vous nous quittiez trop tôt, sur le fait que c'est Anne Hidalgo qui avait décidé d'ouvrir les activités périscolaires aux animateurs mâles afin de promouvoir une véritable égalité des genres. Donc merci, 97% des pédophiles sont des hommes. C'était très intelligent de la part d'Anne Hidalgo. Et aussi de revenir sur ce que vous dites très justement, on dit périscolaire juste pour éviter de dire éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui est responsable. Exactement. Et c'est l'éducation nationale qui essaye là de repousser d'elle le tonneau de pus qu'elle a contribué à remplir. Et évidemment, on attend avec impatience qu'il y ait de véritables enquêtes, c'est le souhait que je forme, sur la pédophilie à l'école et pas juste dans le périscolaire. Exactement. Merci beaucoup. Et merci évidemment, vous, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais excellent débat entre Marion Maréchal et Jean-Philippe Tanguy.
Qui fait pas mal parler. Ouais.
Voilà. D'ailleurs, Marion Maréchal a même refait la couverture de Valeurs Actuelles sur son compte X. Voilà, pour le mettre en avant. Très bon entretien, tout à fait parlant entre deux figures de la droite nationale. Merci, Thug Goldenis.
Merci à vous, cher Richard.
Zone libre.
Et pour la zone libre, avec un peu de chance, les gens de la rédaction finiront par me rejoindre, juste pour m'éviter le désagréable devoir de parler pendant 5 minutes tout seul. Merci, Thug Dual. Et bonjour, Maëlys.
Eh bien,
ça faisait longtemps,
Richard,
qu'on ne s'était pas vu.
Bah oui,
alors, une petite nouvelle. Quelle bête pleine de poils avez-vous décidé de nous apporter aujourd'hui?
Eh bien, puisque vous l'exigez, Richard, je vais vous parler évidemment d'un animal. Est-ce que déjà vous savez ce que c'est un tamarin lion doré?
C'est un singe.
Oui, ben tout à fait. Alors, si notre cher Arnaud peut nous le projeter, bon, pas encore. Mais en tout cas, figurez-vous qu'un tamarin lion doré qui avait été volé, notamment au zoo de Beauval, donc ce zoo qui est magnifique, hein, d'ailleurs, chers auditeurs, j'ai eu la chance d'aller le voir une fois et c'était particulièrement joli à voir et très mignon. Il y a plein de bêtes super mignonnes à y voir, donc je vous invite à y aller. Et bien, ils ont été retrouvés en Slovaquie puisqu'il avait été volé. Voilà, donc il est de retour au zoo de Beauval. Il avait disparu depuis 2015. Il y en avait même 6 autres tamarins et 10 ouistiti, donc c'était un vol assez massif. Donc là, vous pouvez le voir pour les auditeurs qui nous regarderaient sur YouTube, à quoi ressemble ce tamarin lion doré. Donc c'est une bête assez mignonne. Richard, qu'est-ce que vous en pensez de ce tamarin lion doré?
J'avoue que j'aime bien la figure qui m'évoque assez celle d'Alexandre de Gazin, avec cette masse de cheveux et ses mains maigres et agiles. Mais je trouve pas ça magnifique. Moi, en matière de primates, je suis très en faveur des singes japonais.
Vous savez, qui prennent
des bains d'eau chaude au cœur de l'hiver.
D'accord.
Je ne sais pas si vous avez...
Non, j'avais jamais vu.
C'est un spectacle remarquable. Ils ont une figure rouge et une tête blanche, un peu comme moi.
Je crois surtout voir ce
quand
que c'est.
Surtout quand je suis baigné dans un bain d'eau chaude, en
ah
fait.
Ouais, c'est intéressant.
Sinon, d'habitude, je suis assez pâle.
Non, mais je crois voir ce que c'est. J'ai sans doute déjà vu ça dans, un, dans des documentaires animaliers.
Il y avait un documentaire animalier admirable qui était sorti au cinéma à l'époque où YouTube n'existait pas. Mais je vous parle d'un temps que vous ne connaissez pas.
D'un, moins, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Exactement. Alors, et bonjour Louis.
Bonjour
vous,
Richard, bonjour
aviez,
à tous.
Vous aviez quelque chose.
Alors moi, rien à voir. Moi, j'ai pas cette faculté de trouver des bonnes nouvelles sur les animaux. Hein. Je suis moins, en tout cas, moins expert que Maëlys. Moi, je replonge dans mes fondamentaux avec la politique. Parce que le journaliste Florian Tardif, hein, qui a écrit un livre sur le couple Macron récemment, a dévoilé une information plutôt amusante sur un certain Gabriel Attal et qui se lance évidemment dans sa campagne et qui essaye de renouveler un petit peu, le, de, comment dire, de, d'innover sur une nouvelle façon de faire. Gabriel Attal va lancer un Tinder programmatique. Alors Tinder, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application pour les jeunes qui permet une application de rencontre, qui permet de rencontrer l'âme sœur. Et donc il va lancer un espèce de Tinder programmatique.
De rencontrer le coup d'un soir surtout.
Mmh. Le coup d'un soir, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça malheureusement. Bon après maintenant, il n'y a plus que Tinder, il y a plein.
Enfin, Maëlys et moi, on parle par WeDir, hein. C'est juste parce qu'on a lu des articles.
Exactement, bien sûr. Et donc ce week-end, grâce à une application nommée Attal Président, ça sera plus Tinder, ça sera Attal Président. Et donc dans cette application, il y aura 150 questions, rien que ça. Et dans ces 150 questions, on aura le choix entre trois réponses. Je casse, je répare ou je garde. C'est pas une blague, hein. c'est vraiment, mais c'est nul, vous pouvez le dire, c'est nul. Mais en tout cas, c'est la vérité, c'est en tout cas cette application qui proposera ça. Et donc, son équipe souhaite ainsi absorber des propositions pour élaborer un programme. Donc en fait, le programme n'est pas encore fait, et donc c'est le Attal Président Tinder.
C'est un programme participatif. Exactement comme Juan Branco et sa ruche, exactement
voilà,
comme
bah oui.
Notre ami dont j'oublie hélas le nom, qui lui aussi a fait un programme participatif. On l'a déjà invité à plusieurs reprises, un mouvement de droite, voilà, bon, tant pis pour moi, oui. ça m'apprendra.
Il me semble que Sarah Knafo l'avait fait pour
les municipales.
Avec un site internet.
Et il paraît même qu'Emmanuel Macron s'essaye de temps en temps la démocratie participative avec le succès qu'on connaît. On comprend que Gabriel Attal est allé puiser aux meilleures sources.
Voilà, et donc la GPA, je casse, je répare, je garde, ça, on imagine ce genre de propos, ce genre de thème, hein, pourquoi pas, parce qu'évidemment Attal est en faveur de cette GPA.
Je pense qu'on va beaucoup cassé sur Radio Courtoisie les propositions de Gabriel Attal.
On encourage tous les auditeurs de Radio Courtoisie à aller casser l'intégralité des 150 propositions.
Ah, mais ça, c'est souvent la stratégie de l'opposition, ça, de casser les innovations de leurs concurrents politiques, parce que Sarah Knafo, évidemment, pendant les municipales, avait eu affaire à de nombreux gauchistes qui avaient répondu un peu n'importe quoi. Ah, oui. Donc ça, c'est un classique, hein, de la politique.
Oui, mais ça fait plaisir.
Si ça vous donne des idées.
Voilà, c'est donc Attal, voilà, la nouveauté. C'est qu'il va essayer de copier le modèle Tinder. Voilà, ça a un nom, j'ai pas d'équivalent français, mais ça s'appelle swiper.
En
gros, glisser
à gauche ou à droite,
je garde, à gauche, je jette. Et donc là, ça sera pas je jette ou je garde, mais je casse ou je répare. C'est magnifique.
Voilà. Eh bien, casser Attal, président, n'hésitez pas. Et moi, de mon côté, je voulais juste vous dire que Sébastien Lecornu, que son nom soit béni, réunira à Matignon les ministres de l'Intérieur et de la Justice, puissent leur barbe pousser toujours plus longue pour faire un point de la situation sur la disparition de Liana. Eh ben, on a exactement besoin de ça, que le Premier ministre et les deux ministres se réunissent pour se regarder dans le blanc des yeux et dire « on a merdé, comment l'expliquer aux électeurs ? T'inquiète pas Jeannot, dans 6 mois, tout sera oublié, il y en aura eu 12 de plus. » Et voilà, ben, vas-y Sébastien, rame. C'est le moment de prendre congé de vous, chers auditeurs, sur YouTube et sur X. On prendra congé en rappelant que nous, ce n'est pas 150 propositions qu'on a à vous offrir, mais 1 500 000 auditeurs chaque semaine. Voilà, vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner. Il y a une légère marge de progression. Je fais un appel solennel pour que chacun de vous nous donne 1 euro. Voilà, c'est beaucoup moins qu'une cigarette, c'est beaucoup moins qu'une baguette. C'est plus cher qu'une baguette achetée en hypermarché, mais voilà, c'est moins cher qu'une baguette achetée chez le boulanger. N'hésitez pas, et d'ailleurs Arnaud va vous expliquer comment faire.
Deux solutions pour nous soutenir financièrement. La première, vous rendre sur soutenir.rc.fr afin de nous faire un don en ligne. Et puis également, vous pouvez nous envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Voilà, et nous allons en profiter pour réécouter l'entretien avec Elisabeth Louvel, une même loi de justice sur la manière dont les juges virent ou pas les dealers des HLM.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français avec Elisabeth Louvel, directrice générale et porte-parole de l'Observatoire des décisions de justice. Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Alors, merci pour votre invitation, bonjour à tous.
Merci à vous d'être là si tôt matin. Vous avez monté l'Observatoire de la justice il y a un an ou deux, si je ne m'abuse.
Oui, un an, nous avons tout juste un an là au mois de juin.
Voilà, un an. Et vous surveillez avec passion et avec science la manière dont toutes les décisions de justice sont rendues. Et une chose vous a surpris il y a peu de temps, c'est la manière dont les juges bretons ont décidé d'expulser les dealers des logements sociaux qu'ils occupent, alors que les juges marseillais, eux, ont décidé de protéger d'autres dealers. Donc pour le même fait, il y a deux justices.
Oui, absolument. Pour une même loi, il y a deux justices. Je pense que vous connaissez tous, et vos auditeurs également, la célèbre citation extraite de la fable de Jean de La Fontaine, et non d'une chanson Michel Sardou, qui commence par « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Eh bien, je l'ai quelque peu adapté pour l'affaire qui nous concerne, et je l'ai commencé par « Selon que vous serez breton ou marseillais ». Parce qu'en effet, le 5 mai 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a décidé d'expulser une famille de son logement social au motif que le fils aîné, qui a 17 ans seulement, était vraiment impliqué jusqu'au cou dans le trafic de stupéfiants. On a retrouvé du cannabis au domicile familial, il a plusieurs interpellations, du matériel de conditionnement, donc il avait toute la panoplie du parfait dealer et en plus un point de deal actif en bas de l'immeuble. Donc, j'ai été agréablement surprise de voir que le tribunal de Rennes avait décidé d'expulser cette famille en appliquant la loi assez récente du 14 juin 2025. J'ouvre une petite parenthèse pour la politique de cette mesure qui était vraiment, il y a 3-4 ans à peine, connue comme étant une mesure extrémiste, parce que portée par le Rassemblement National, parce que portée par Reconquête. Donc, une mesure stigmatisante. Vous étiez vraiment très, très méchant quand vous en parliez. Et bien, finalement, reprise par les LR quelques mois plus tard, puis carrément par les macronistes qui l'ont intégrée dans une loi, et bien, ce qui était inenvisageable il y a à peine 3-4 ans est devenu une mesure consensuelle à droite comme au centre. Donc, c'est une petite note positive, parce que c'est important de commencer la journée avec une note positive. Ça veut dire que, par la pression de l'opinion, par la réalité de terrain, cette mesure est devenue consensuelle. Mais c'était sans compter sur nos juges français, puisque le 19 mai 2026, donc 15 jours plus tard, je découvre par contre que le tribunal judiciaire de Marseille a décidé, lui, de refuser d'expulser des familles de délinquants de leur logement social dans la célèbre cité de Castellane. Je pense qu'elle est tristement rendue populaire par le trafic de drogue qui règne. Donc, même situation, même problème de trafic de drogue, même loi qui aurait dû être appliquée, mais les juges en ont décidé autrement. Alors, ils ont estimé que les condamnations pénales des enfants n'établissaient pas suffisamment le trouble à l'usage paisible de l'immeuble et que la tranquillité n'était pas forcément dérangée par les trafics parce que ça se produisait pas avec certitude en bas de l'immeuble. Enfin, voilà, ce sont des circonvolutions judiciaires dont on a l'habitude.
Pardonnez-moi, Elisabeth Louvel. Donc, pour résumer, dire tant qu'on ne prouve pas au juge par A plus B avec des photos en gros plan d'une personne en train de trafiquer pile au pied de son immeuble, il considère que le fait que des trafiquants soient installés dans une habitation à loyer modéré gérée par l'État ou par la municipalité ne constitue pas un trouble à l'ordre public.
Oui, parfaitement. C'est l'interprétation, je dirais, personnelle et subjective de ces juges marseillais. Et pourtant, Dieu sait si à Marseille, il aurait fallu faire des exemples en premier, puisque c'est forcément une ville qui se mexicanise, comme on l'a vu. Donc, finalement, ces juges ont estimé que l'ordre public n'était pas forcément très touché par tout ça. Donc, en effet, c'est scandaleux parce que c'est évidemment un pouvoir que se sont donné les juges marseillais qui se substitue au pouvoir législatif, qui lui a cette loi, ce sont les peuples qui votent les lois, et le juge a décidé de se substituer à cela en décidant, en la vidant de sa substance en fait. Donc c'est un phénomène que l'on voit assez couramment et qui porte atteinte quand même à trois principes fondamentaux dans notre démocratie. Rapidement, il porte atteinte à la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est le fait qu'un citoyen...
Elisabeth Louvelle, on vous entend horriblement mal, pardonnez-moi. Il y a peut-être un problème de connexion Internet. Ah non, c'est le micro.
J'ai la même connexion que...
Non, c'est le micro qui est défectueux. Voilà,
c'est le micro.
Voilà.
Alors, bon. Je ne sais pas comment changer ça parce que j'en ai pas.
Ben voilà, ne bougez plus. Voilà, figez-vous et continuez à parler.
Oui, je disais que cela portait atteinte à trois principes fondamentaux de notre démocratie, notamment la sécurité juridique. Puisque quand vous êtes un citoyen français, bon, on exige de vous que vous connaissiez à peu près les lois de votre pays et surtout les conséquences que vos actes impliquent. Or là, si les conséquences sont différentes d'un département à l'autre, vous avouerez que vous n'êtes plus en sécurité juridique, on va dire.
Dans la décision du 19 mai 2026, en fait, c'était le préfet des Bouches-du-Rhône qui avait demandé à la justice de procéder à l'expulsion, parce que l'esprit de la loi ne consiste pas à dire on va chasser de leurs logements sociaux tous ceux qui ont un point de deal en bas de leur immeuble. C'est on va chasser des logements sociaux ceux dont le comportement est évidemment en rupture avec la loi. Et donc, le logement social est une espèce de gratification donnée par un État généreux ou une municipalité généreuse à des gens dans le besoin. Si ces gens-là, en fait, ne sont pas de bonne vie et de bonnes mœurs, il n'y a aucune raison que la municipalité ou l'État les fasse profiter de leur libéralité. Donc, ce n'est pas l'existence d'un point de deal identifié précisément sur le palier ou à la porte de sortie qui est en soi l'élément déclencheur.
Non, absolument. L'objectif de la loi de juin 2021, c'était vraiment de lutter contre le fléau du narcotrafic. Et dans cet esprit-là, en effet, le logement social n'est pas censé être une base pour le trafiquant ou la base arrière de tout un trafic, de toute une cité. Et le droit au logement n'est pas considéré comme un droit absolu. Au logement social n'est pas un droit absolu, c'est un droit conditionnel. Et la condition, évidemment, c'est de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique ou à l'ordre public, en l'occurrence. Et c'est une faculté qui a été donnée au préfet, donc à l'État, de se substituer au bailleur pour demander la résiliation de ce bail auprès du juge des contentieux. Et donc, en fait, toutes les initiatives qui ne sont pas très nombreuses, j'avais noté les chiffres, il y a à peine 10% de résiliations qui sont effectives, devant les tribunaux. C'est le préfet, donc, qui se substitue au bailleur. Donc l'État, et donc ce sont les juges finalement qui bloquent la plupart du temps ces résiliations qui sont tout à fait légales.
Alors les juges les bloquent, et même pire si j'ose dire, là dans cette décision du 19 mai 2026, visiblement l'État n'a pas fait appel de la décision.
Pour l'instant non, à ce jour on n'a pas d'informations qui nous indiquent que le préfet aurait fait appel. Il lui reste je crois encore quelques jours, il a juste dit qu'il attendait les éléments de les motivations du jugement, mais en effet, pour l'instant, il n'y a pas d'appel.
Non, sauf que les motivations, d'une certaine manière, il les connaît déjà, puisque vous-même, vous les connaissez, donc il attend une espèce de notification officielle qui, en fait, est totalement inutile, mais bon, on verra bien. Mais vous insistiez, dans l'article que vous avez fait paraître sur cette affaire, sur la manière dont c'est pas juste les juges marseillais, c'est que, par exemple, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du Code pénal sur la confiscation obligatoire des biens issus du trafic. Depuis 2012, on pouvait confisquer les biens, c'est-à-dire l'État avait le droit de rentrer, avait le droit de dire que le portable de ce jeune trafiquant, l'ensemble des biens dans sa chambre, et pourquoi pas l'ensemble des biens de la famille, pourvu qu'on puisse établir qu'ils ont été achetés avec l'argent de la drogue, peuvent être confisqués. Et bien là aussi, donc la loi décide, plutôt le Conseil constitutionnel a décidé que la loi était trop sévère et qu'on n'allait pas priver de quelqu'un de son poste de télévision s'il est trafiquant de drogue.
Oui, absolument, c'est assez récent. C'était en mars 2026 où le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure qui existait, comme vous dites, depuis 2012 dans le Code pénal. Donc, et c'est évidemment toujours avec le motif de l'individualisation de la peine. On ne peut pas justement être trop sévère. Il faut voir au cas par cas, il faut regarder le passif de la personne. Et ça, c'est un gros... C'est le grand mal de la justice, hein, c'est cette culture de l'excuse, d'individualisation de la peine, qui, comme on l'a vu pour les émeutes de samedi soir provoque finalement une impunité collective, parce qu'à force d'individualiser chaque peine, elles sont réduites, ce ne sont pas les peines qui sont encourues, qui sont prononcées, et on arrive à une désobéissance judiciaire en plus d'une impunité collective.
Et vous l'avez effectivement parfaitement exprimé, on se retrouve avec 900 interpellations, dont 87 mineurs, le plus jeune à 14 ans, et les peines de prison, c'est 6 à 12 mois de sursis aménagés, les amendes c'est de 300 à 500 euros, des travaux d'intérêt général, des stages de citoyenneté, des mesures éducatives. En fait, personne, y compris ceux qui ont attaqué les policiers, ne se retrouve à faire de la prison ferme.
Non, alors j'ai lu quand même dernièrement que sur plus de 500 gardes à vue, parce qu'il y en a à peu près 300-400 qui sont encore en cours, parce que pour des actes plus graves, on nous dit, on doit attendre plus longtemps. Il y a eu 3 condamnations à de la prison ferme, 3 seulement.
3.
Voilà, c'est la dernière mise à jour.
Avec mandat de dépôt ?
Ah oui, prison ferme, mandat de dépôt.
Voilà. Donc là, ça veut dire que la personne est véritablement allée en prison sans que le juge d'application des peines n'ait eu le temps de considérer qu'il fallait revoir le jugement à la baisse.
Voilà, mais il n'y en a eu que 3.
Sur cette affaire des Bretons et des Marseillais, est-ce qu'on peut expliquer la décision des juges marseillais par le fait que la ville étant déjà complètement gangrenée par la drogue, les juges se sont eux-mêmes habitués, si j'ose dire, à cette présence de la drogue, alors que les Bretons ne sont pas encore au milieu d'une cité dévorée par le narcotrafic? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est territorial? Est-ce que c'est la bonne volonté de chaque juge? Est-ce que c'est le sentiment de chaque juge qui prévaut?
Alors justement, c'est tout le problème. C'est comme vous dites, c'est le sentiment de chaque juge qui prévaut, parce que c'est justement de là l'atteinte à la séparation des pouvoirs, si je puis dire. Vous avez les représentants du peuple qui votent une loi et les juges, eux, qui l'analysent ou la vie de cette substance dans chaque tribunal. Donc c'est même pas, je pense, un relativisme par rapport au trafic de stupéfiants. C'est vraiment cette obsession d'individualisation de la peine qui fait que on voit toutes ces mesures laxistes, toutes ces condamnations qui n'en sont pas. Je pense vraiment que le trafic de drogue est considéré comme important pour chaque magistrat, mais encore une fois, voilà, il faut voir la personnalité du délinquant et c'est tout le problème de la justice française. Il va falloir, je pense, dans les mesures effectuées pour justement éviter cette différence énorme entre chaque tribunal, il va falloir soit que la Cour de cassation vienne unifier cette loi dans tous les tribunaux, soit qu'en effet, le législateur encadre davantage et souligne vraiment tous les détails que doit comporter cette loi. Peut-être qu'il y avait justement trop d'espace pour l'interprétation subjective du juge.
Trop d'espace et donc évidemment la porte ouverte au fait que ce juge puisse considérer qu'un trafiquant a parfaitement le droit d'être abrité par l'État ou par la municipalité dans un logement social.
Oui.
Voilà, donc le logement social sert de base arrière au trafic de drogue grâce au juge marseillais. Merci beaucoup Elisabeth Louvel d'avoir dénoncé cette justice, non pas à deux poids deux mesures, mais à deux territoires. Et donc une même loi produit deux effets différents. Dans un cas, les citoyens en pâtissent. Dans l'autre, ils sont sauvegardés à peu près. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci d'avoir été avec nous et cette ligne droite prend fin. C'est le moment de vous demander une fois de plus, en tendant notre sébile plutôt que notre Kalachnikov, de nous donner un peu d'argent.
Votre générosité est la garantie de notre indépendance, alors aussi je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et merci également d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et avec ça, on fait très bonnes émissions.
Comme par exemple, dans un instant, Promenades et flâneuses au domaine de poésie de Pascal Payen-Appenzeller. À midi, en direct, le libre journal des éditeurs, dirigé par Jean-Paul Nadéo, avec 3 auteurs au programme pour 3 lectures d'été, Christine Goguet, Florian Coupé et Julien Donadille. À 17h30, Restons courtois, proposé ce soir en direct par Marc Baudrier, Casseurs, barbares et justice, Jacques Dallest et Pierre-Marie Sève face à l'ultra-violence. Mélenchon président, hypothèse folle ou risque réel. Et la dernière dinguerie de l'art contemporain, le vol d'une banane à 6 millions d'euros. Avec Marie-Lys Charlez, artiste peintre. À 19h30, il était une fois de Patrick Simon. Face aux échecs de Macron, le livre de Nicolas Lecossin, cet état qui tue la France. Et puis ce soir, à 21h30, prolongation avec Stanislas Rigaud, avec entre autres le souffle neuf qui se répand sur l'église avec Michel Viau.
Voilà, et moi de mon côté, je ne vous dis pas à lundi car demain c'est samedi, mais je vous dis à cet après-midi à 17h pour la dédicace de Xavier Aymon à la librairie Logos, 115 avenue de la Bourdonnais.
Et puis moi je vous dis à lundi.
Et ben voilà.